VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 1er juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Pour commencer les titres, Ketanji Brown Jackson, première juge africaine-américaine à la Cour suprême, a prêté serment hier. Au Burkina Faso, des hommes armés dynamitent un pont sur un important axe routier dans le nord du pays. Les sanctions contre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso au menu d'un sommet ouest-africain très attendu dimanche à Accra au Ghana. La répression des manifestants anti-putsch fait 9 morts au Soudan. En Tunisie, publication d'un projet de constitution avec de vastes pouvoirs présidentiels. L'OTAN inquiète de l'influence de Moscou et de Pékin sur son flanc sud, en Afrique notamment. Aucune raison de changer le principe un pays, deux systèmes, assure le président chinois Xi Jinping à Hong Kong. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, des individus armés ont dynamité le pont de Naré entre Kaya et Dori sur l'un des principaux axes routiers reliant Ouagadougou au nord du pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le pont de Naré a effectivement subi d'importants dommages après avoir été dynamité par des hommes armés non identifiés, a déclaré une source sécuritaire. Selon un habitant de Kaya, cité par l'AFP, des camions qui avaient quitté pour Dori ont dû rebourser chemin tandis que des voyageurs ont dû rejoindre à pied d'autres véhicules de l'autre côté du pont pour aller à Dori. La route nationale 3 est le principal axe reliant Ouagadougou à Dori, chef-lieu de la région du Sahel. La nationale 2 qui relie Waiguia à Dori via Djibo est sous blocus djihadiste tout comme l'axe Kongoussi-Djibo. Plusieurs autres communes du nord et de l'est, comme Titao ou Madjouari, sont aussi isolées du reste du pays. Plus de 40% du territoire sont hors du contrôle de l'État, selon des chiffres officiels. Apparemment, les groupes terroristes cherchent à isoler les populations et rendre plus difficile l'évacuation de ces zones dites d'intérêt militaire où devraient être menées des opérations de l'armée burkinabé.
Les dirigeants de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, se réunissent lors d'un sommet très attendu dimanche à Accra au Ghana et doivent statuer sur les sanctions concernant le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, trois pays théâtres de coups d'État. Ils entendent peser pour un retour rapide des civils au pouvoir. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a déploré hier, jour du 62e anniversaire de l'indépendance de son pays, ce qu'il a appelé la énième agression de la part du Rwanda qu'il a accusé, je cite, d'agir sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux, fin de citation. Monsieur Tshisekedi a affirmé sa détermination à opposer un double front diplomatique et militaire aux violences dans l'Est. Kigali dément soutenir les rebelles du M23. Au Soudan, 9 manifestants ont été tués hier à Khartoum où des dizaines de milliers de personnes ont appelé à la chute du général Abdel Fattah al-Burhan. Claire Morin-Gibourg.
La manifestation hier a été l'une des plus grandes mobilisations depuis des mois. Cela a été aussi la plus meurtrière car les forces de sécurité ont tiré à balles réelles. Des médecins ont dénoncé des tirs de grenades lacrymogènes à l'intérieur de certains hôpitaux. Le bloc civil des forces pour la liberté et le changement a déclaré que les défilés d'hier prouvent que la révolution n'est pas morte. Car 8 mois après le putsch, les manifestants continuent de réclamer que l'armée rende le pouvoir aux civils. Outre Khartoum et ses banlieues, des manifestations ont aussi eu lieu à Wad Madani dans le sud, au Darfour à l'ouest et dans plusieurs villes de l'est côtier. Le 30 juin est une journée symbolique pour le Soudan. Il marque l'anniversaire du coup d'État qui a porté Omar el-Béchir au pouvoir en 1989. C'est aussi le 30 juin 2019 que des rassemblements monstres ont conduit à la chute de Béchir après plusieurs années de règne sans partage.
En Tunisie, le président Kais Saied a fait publier hier un projet de constitution qui sera soumis à référendum le 25 juillet. Ce projet accorde de vastes pouvoirs au chef de l'État, marquant une rupture radicale avec le système parlementaire en place, Nanit Talani.
Le texte, publié au journal officiel, stipule que le président de la République exerce le pouvoir exécutif, aidé par un gouvernement dirigé par un chef du gouvernement qu'il désigne. Et ce gouvernement ne sera pas présenté au Parlement pour obtenir la confiance. Le projet de constitution ne comporte par ailleurs aucune mention de l'islam comme religion d'État, une omission visant à combattre les partis d'inspiration islamiste comme Ennahda, bête noire du président Saied. L'opposition et des organisations de défense des droits humains accuse M. Saied de chercher à faire adopter un texte taillé sur mesure pour lui.
L'artiste nigérian Shion Kuti a annoncé hier l'annulation de son concert qui était prévu samedi au festival marocain Casablanca afin de porter le deuil de 23 migrants morts qui tentaient de rallier l'enclave espagnole de Melilla au Maroc. Le point avec John Linden.
C'est avec une grande tristesse que je vous annonce l'annulation de notre voyage au Maroc ce week-end pour Casablanca, a indiqué Seyoun Kuti, fils du légendaire procureur de l'afrobeat Fela Ramson Kuti, dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Il m'est impossible en toute bonne conscience de monter sur scène et de passer du bon temps alors que tant d'Africains ont perdu la vie. Nous devons porter leur deuil, a ajouté l'artiste en référence aux 23 migrants qui ont perdu la vie vendredi en tentant de traverser vers l'enclave espagnole de Melilla. Selon Rabat, les 23 victimes ont péri dans des bousculades et en tombant du haut de la grille métallique qui sépare le Maroc de Melilla. Des vidéos et des photos montrant des corps jonchant le sol dans des mares de sang, des membres des forces marocaines frappant des gens et la garde civile espagnole tirant des gaz lacrymogènes sur des hommes accrochés à des grillages, a résumé Human Rights Watch, qui demande une enquête impartiale et indépendante.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La magistrate Kenton G. Brown Jackson, la première femme noire à entrer à la Cour suprême des États-Unis, espère que son expérience de la vie un peu différente soit un atout pour la haute juridiction, même si son arrivée ne va changer aucun équilibre. Le point avec Rosine Munezero.
Ketanji Brown Jackson, 51 ans, a prêté serment jeudi devant le chef de la haute juridiction. Elle remplace le juge Stéphane Breuer qui prend sa retraite à 83 ans. Elle est fille d'une famille d'enseignants noirs installée en Floride. Elle a toujours souligné sa chance d'être née après les grandes luttes pour les droits civiques. Elle a pu fréquenter des écoles avec des élèves d'origine ethnique diverse, puis décrocher un diplôme de la prestigieuse université de Harvard. C'est là où elle rencontre l'homme de sa vie, le docteur Patrick Jackson, un chirurgien de renommée à l'hôpital Georgetown, ici même à Washington. Le couple mixte vient de célébrer ses 25 ans de mariage. Dès la fin de ses études, elle est assistante du juge Stephen Breyer, puis va alterner ensuite les expériences dans le privé et le public. En 2013, le président Barack Obama la nomme juge fédérale. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden la nomme à la Cour d'appel fédérale de Washington, puis la choisit en février pour remplacer le juge Stephen Breyer, qui, à 83 ans, a décidé de se retirer. Elle devient la première femme noire à siéger à la Cour suprême des États-Unis.
L'OTAN s'est inquiétée jeudi de l'influence grandissante de Moscou et Pékin sur son flanc sud, en Afrique notamment, mettant en garde contre le risque de déstabilisation de ces zones. La dernière session du sommet de l'Alliance Atlantique, qui s'est achevée jeudi à Madrid, a porté dans la matinée sur les menaces et les défis au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Sahel. Plusieurs pays occidentaux ont dénoncé ce qu'ils ont appelé la présence croissante de mercenaires russes du groupe Wagner au Mali ou en Centrafrique. En Ukraine, 17 personnes ont été tuées dans un tir de missile sur un immeuble de la région d'Odessa, dans le sud du pays, tiré par un avion stratégique depuis la mer Noire, selon Kiev, au moment où l'armée ukrainienne vient d'y reprendre aux Russes un îlot stratégique pour la maîtrise des routes maritimes. Le président chinois Xi Jinping a loué vendredi la gouvernance de Hong Kong depuis sa rétrocession à Pékin, dont il célébrait le 25e anniversaire, et saluant une vraie démocratie malgré la répression menée depuis 2 ans contre la dissidence. La Minute Éco, Nathalie Barge.
L'opérateur mobile MTN a annoncé sur son site web la nomination de la Zambienne Mitouane Gambi comme PDG de MTN Cameroun à compter du 1er septembre. L'actuelle présidente de MTN Rwanda a également travaillé dans des opérations mobiles au Bénin et en Zambie et a dirigé des initiatives de transformation de l'industrie pour la pénétration numérique. En Égypte, l'autorité générale pour l'approvisionnement en produits de base a acheté 815 000 tonnes de blé lors d'un appel d'offres international. Les cargaisons qui arriveront en août comprennent 350 000 tonnes de blé français, 240 000 tonnes de blé roumain, 175 000 tonnes de blé russe et 50 000 tonnes de blé en provenance de Bulgarie. L'agence de régulation financière américaine CFTC a attaqué en justice une plateforme spéculative sud-africaine réclamant la restitution de 1,7 milliard de dollars déposés en crypto-monnaie par des clients. Placé en liquidation judiciaire l'an dernier, Mirror Trading International garantissait des rendements de plus de 100% par an à l'aide d'un algorithme de transaction sur le marché d'échange, lequel s'est révélé être imaginaire.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La CAF a publié la première liste des nominés pour les CAF Awards 2022.
Oui, 30 candidats sont en lice pour le titre de joueur de l'année. On peut citer entre autres l'Égyptien de Liverpool Mohamed Salah, le Sénégalais du même club Sadio Mané, détenteur du titre et grand favori à sa propre succession, le portier sénégalais de Chelsea Édouard Mendy, l'Algérien de Manchester City Riyad Mahrez. Ils ont été choisis par un panel d'experts techniques, de légendes de la CAF et de journalistes en prenant en considération la performance à tous les niveaux du candidat entre septembre 2021 et juillet 2022. La cérémonie de récompense aura lieu le 21 juillet 2022 à Rabat, au Maroc.
Des nouvelles de transfert de joueurs.
Selon Foot Mercato, l'international ivoirien Ghislain Koné va quitter Reims et se diriger vers l'Arabie Saoudite en fin de contrat avec le club français. Le latéral gauche va signer à Al Nassr, désormais entraîné par Rudy Garcia. De son côté, Ahmed Touba, défenseur algérien, rejoint Istanbul Başakşehir et quitte donc le RKC Waalwijk, club néerlandais où il a disputé 62 matchs en 2 ans. Il a paraphé un contrat de 3 ans avec une année supplémentaire en option.
Le FC Barcelone cède une partie de ses droits TV pour renflouer ses caisses.
Oui, en proie à d'importantes difficultés financières, le club catalan a cédé 10% de ses droits télé de la Liga pour les 25 prochaines années au fonds américain Sixth Street. Le montant s'élève à environ 207,5 millions d'euros. Si cet accord n'avait pas été conclu, le Barça aurait terminé l'exercice financier de l'année avec une perte de 150 millions d'euros, affirme le quotidien catalan Sport. La cession des droits de télévision est l'un des 2 leviers financiers approuvés la semaine dernière par les socios catalans pour tenter d'augmenter rapidement les revenus du club et lui permettre de recruter la saison prochaine. En mai dernier, Sixth Street a signé un premier accord avec le Real Madrid pour environ 360 millions d'euros pour exploiter le stade Santiago Bernabéu rénové.
Basketball NBA, Kevin Durant veut quitter les Nets.
Oui, l'ailier superstar de Brooklyn a demandé son transfert de l'équipe new-yorkaise où il évolue depuis 2019, rapportent les médias américains. 2 fois champion NBA avec les Golden State Warriors, sacré meilleur joueur de la NBA en 2014 sous le maillot du Thunder d'Oklahoma City, Kevin Durant souhaiterait aller vers Phoenix ou Miami, selon ESPN.
En 2021, Durant avait prolongé avec les Nets pour 4 ans et 198 millions de dollars. Cette demande de transfert de Durant survient 3 jours à peine après que Kyrie Irving a annoncé qu'il allait lever son option pour une saison supplémentaire au sein des Nets. En début d'année, James Harden a été transféré à Philadelphie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La relique de Patrice Lumumba, l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, repose désormais dans le mausolée construit en sa mémoire sur la place qui porte son nom à Kinshasa. Félix Tshisekedi, président de la RDC, et son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ont assisté à la cérémonie 61 ans après l'assassinat du héros congolais. Eddy Isango a joint à Kinshasa l'une des filles Lumumba, Juliana Lumumba.
C'était un moment très émouvant d'abord et pour nous ça va au-delà. On a enfin pu ramener la dépouille. Elle est revenue au pays de ses ancêtres. Il est là, il est ici, tu vois. Et pendant le trajet, parce que j'étais derrière le cercueil, tout le long il fallait voir les gens qui criaient « Lumumba, le fils du pays, il est rentré, hein, on l'a assassiné, mais il est chez nous ». Tu vois, c'est-à-dire c'était un moment très émouvant pour nous, la famille évidemment, en rend le dernier hommage à l'enterrement de nos parents, mais c'est aussi l'enterrement. Comme je dis, toute la nation était là. Ce n'était pas seulement un mouvement d'enterrement, mais c'était une joie aussi pour la plupart des gens. Parce que pour eux, et parce que je ne sais pas si vous avez suivi tous les discours qui ont été, ils ont repris tout ce que Lumumba a dit. Donc c'est un peu revoir, on se réapproprie notre passé. Parce que Lumumba, ce n'est pas seulement un père, c'est le père de la nation. Et toutes ses valeurs, et c'est un homme politique. Il est mort pour ses valeurs, il est mort pour ses convictions. Et ses convictions, c'était la dignité, c'était l'unité et la souveraineté de ce pays. Et on en a parlé tout le long, c'est-à-dire le président de la République dans son discours, le premier ministre dans son discours, ses petits-enfants aussi qui ont fait un discours. Et c'était très émouvant parce que c'est pas seulement on enterre quelqu'un, mais on va plus loin. On veut restaurer ces valeurs-là. Et chacun disait la même chose, que ce soit le président, que ce soit le ministre, et ses petits-enfants qui sont jeunes. Hein, et c'est la première fois, ce sont les petits-enfants qui parlaient de nous. Donc, ce n'est pas parce que ce sont nos enfants, mais ce sont des jeunes qui ont une vingtaine, une trentaine d'années, et qui parlent de lui comme il était là, et de ses valeurs, et de ce qu'ils veulent revivre, et faire vivre aujourd'hui. Et c'est ça qui est important.
Justement, aujourd'hui, on parle d'enterrement.
Non, comment mais c'est peut-on... ce que je vous ai dit, on a parlé de renaissance. Je ne sais pas si vous m'avez entendu.
Et comment garder vivant alors sa mémoire, ses marques, parce qu'aujourd'hui, les Congos résistent en pensant à Lumumba. Comment garder vivant justement ses
données? De toute façon, déjà, je n'ai pas à donner de leçons aux uns aux autres. C'est-à-dire, la plupart des gens, ils veulent restaurer ces valeurs-là. Et surtout, les gens ont surtout parlé, tous les interlocuteurs, tout ce que les gens disent. Et surtout, ils ont énormément parlé de l'unité du Congo, de sortir du tribalisme. Et qu'on veut être unis en tant que Congolais, et surtout que l'intégrité territoriale, pour nous, elle est très importante, la dignité des Africains. C'est cela. Et cela pousse à une réflexion qui a commencé et qui fait que les gens vont maintenant réfléchir. Non seulement ils réfléchissent à leur passé, mais ils réfléchissent surtout à leur avenir et comment ils le voient et comment ils vont le faire.
La Belgique a finalement présenté des excuses pour l'assassinat de votre père, le premier ministre de la RDC. Qu'est-ce qui doit être fait d'autre au-delà des excuses?
Mais maintenant, de toute façon, en ce qui me concerne, moi, bon, en tant que sa fille, parce qu'on était là en Belgique, hein, c'est surtout la vérité. Et la vérité, on va voir comment cela va se passer. Il y a aussi une action en justice qui va depuis 12 ans aujourd'hui, hein, et on verra la suite.
Juliana Lumumba, l'une des filles de Patrice Lumumba.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, la coalition d'opposition Yehu Askanui a renoncé à sa manifestation pour ne pas perturber les Sénégalais qui préparent la fête de la Tabaski. Pour beaucoup, cela va calmer le jeu. Après des semaines de tensions, mais pour d'autres, cela cache une nouvelle stratégie de l'opposition, nous dit de Dakar notre correspondant Sédina Abagui.
En renonçant à descendre dans les rues ce mercredi 29 juin, les leaders de Yehu Askanui enlèvent une épine du pied à beaucoup de Sénégalais. Ces derniers n'auront pas à se soucier de l'insécurité qui pourrait découler des manifestations. Une décision jugée sage par Oumar Ndiaye, chef mécanicien. Lui et son collègue Ousmane pensent que cette démarche est la meilleure.
Sonko a tardé à adopter cette stratégie. Il faut savoir que la seule chose qui nous intéresse ici, c'est la paix. Avec la Tabaski qui arrive, les commerçants, des jeunes se sont engagés dans la vente de moutons car n'ayant pas d'appui venant de l'État. Il faut que le calme revienne car quand il y a des manifestations, ils ne peuvent pas travailler.
Une renonciation qui pourrait cacher une nouvelle stratégie, c'est la lecture de pagaille. Pour se retraiter, si Ousmane Sonko, malgré son courage, décide de baisser les armes, c'est qu'il prépare autre chose.
Connaissant la hargne de Sonko et sa fougue, je pense que cette décision lui a été dictée par quelqu'un en qui il a vraiment confiance. Et il est fort probable qu'il y a une autre stratégie de lutte qui se prépare.
Malgré l'invalidation de sa liste des titulaires, Yehu Askanui compte participer aux législatives avec sa liste de suppléants. Oumar Ndiaye adhère à cette démarche.
Qu'ils nous laissent aller à ces élections et que l'opposition prenne la majorité. Comme ça, nous montrerons à Macky Sall que c'est fini pour lui.
Le 31 juillet prochain, dans un mois exactement, les Sénégalais se rendront aux urnes pour choisir la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Un scrutin auquel ne va pas participer Ousmane Sonko, le leader de la coalition Yehu Askanui. Pour continuer à se faire entendre, l'opposition a donc appelé à un nouveau concert de casseroles ce soir de 20h à 20h30. Sédina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
À l'occasion du lancement de son rapport mondial sur les drogues à Abidjan, l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité a déclaré que l'Afrique de l'Ouest, considérée pendant longtemps comme simple zone de transit de la drogue, est aujourd'hui un grand consommateur. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Notre correspondante à Abidjan, Aïcha Diarra.
Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité, ONUDC, la consommation de drogue en Afrique touche principalement les jeunes hommes de moins de 35 ans et 93% des personnes traitées pour des troubles liés à la consommation de drogue en Afrique sont des hommes dont l'âge moyen est d'environ 30 ans. Plus de la moitié de la drogue qui part de l'Amérique latine pour l'Europe passe par l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest où plus de 57 tonnes de cocaïne ont été saisies de 2019 à 2020.
Ils sont qui ont une progression économique forte car ils veulent établir des plateformes de coordination opérationnelle.
En avril dernier en Côte d'Ivoire, 2,5 tonnes de drogue ont été saisies à Abidjan et San Pedro et les enquêtes qui se poursuivent ont déjà conduit à l'arrestation de 30 personnes impliquées dans ce trafic. Parmi elles, des chefs d'entreprise de sécurité et des
Le plan Madrid s'est achevé sur la promesse de continuer à soutenir l'Ukraine face à la Russie, l'adhésion de la Finlande et de la Suède et une mise en garde contre la Chine, citée pour la première fois dans la feuille de route de l'Alliance Atlantique. Le point avec Nathalie Barge.
Lors d'une conférence de presse au dernier jour du sommet, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a salué le travail accompli au cours de cette rencontre.
Nous avons convenu d'inviter la Finlande et la Suède à rejoindre notre alliance et nous nous sommes mis d'accord sur un soutien à long terme pour l'Ukraine. Nous nous sommes mis d'accord sur le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Nous avons convenu d'intensifier la lutte contre le changement climatique et de créer un nouveau fonds d'innovation $1 billion.
Les dirigeants de l'Alliance Atlantique ont réaffirmé leur solidarité à l'Ukraine. Les États-Unis vont continuer à soutenir Kiev.
Nous allons soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Regardez l'impact que la guerre contre l'Ukraine a eu sur la Russie. Ils ont dû renoncer à leur dette nationale pour la première fois depuis le début, plus de 100 ans.
Monsieur Biden a encore annoncé que les États-Unis vont livrer à l'Ukraine une nouvelle aide militaire de plus de $800 millions. Il a par ailleurs dit avoir besoin de l'accord du Congrès pour la vente de F-16 à la Turquie, estimant qu'il ne fallait pas lier le réchauffement entre Washington et Ankara sur ce dossier avec la levée mercredi du veto turc à l'adhésion de la Suède et la Finlande à l'Alliance Atlantique. Pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à intensifier les efforts en faveur d'un cessez-le-feu durable en Ukraine.
Nous devons nous efforcer de mettre fin au drame humain, à la destruction, aux larmes le plus rapidement possible. Nous devons intensifier nos efforts diplomatiques pour un cessez-le-feu durable.
Usant du cas ukrainien, le président français Emmanuel Macron a quant à lui suggéré que les industries de défense européennes produisent plus d'armement.
Les bouleversements que nous vivons transforment les réalités stratégiques, accélèrent, nous le voyons, les temps de décision et confirment la nécessité d'une défense et d'une souveraineté européenne renforcée, coopérant avec l'Alliance Atlantique, dont elle renforce la sécurité.
Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié de ridicule l'accusation du président russe Vladimir Poutine qui a dit que l'OTAN avait des ambitions impérialistes et utilisait le conflit ukrainien pour affirmer son hégémonie.
La politique,
c'est lui qui affirme que certains de ses pays voisins font en fait partie de son pays et qui est intervenu en Ukraine pour conquérir un morceau de terre. C'est cela l'impérialisme et cela ne peut pas être appelé autrement.
Dans sa nouvelle feuille de route stratégique, l'OTAN a jugé par ailleurs que la Chine représentait un défi pour les intérêts et la sécurité des pays de l'Alliance. La Chine a fustigé les efforts entrepris pour la salir après la publication de ce document qui la présente pour la première fois comme une menace mondiale.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Simoudia, à la mise en onde de Lionel Ronanira Gahima et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.